Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 19h15. Toute l'info et même plus, puisqu'à 18h20, nous serons avec Dominique Besnéard à quelques jours du festival du film d'Angoulême, dont il est le délégué. À la une de l'actualité ce soir, la feuille de route de Jean-Michel Blanquer pour la rentrée des classes du 2 septembre. Des écoles ouvertes, un protocole sanitaire à 4 niveaux, une incitation à la vaccination pour les 12-17 ans dans les établissements. Pour les moins de 12 ans, ce n'est pas d'actualité, dit-il. On va revenir dans un instant sur ces premières règles fixées par le ministre de l'Éducation. Sur le front de l'épidémie, Jean Castex était lui en déplacement à Albi aujourd'hui, où la réanimation de l'hôpital est saturée par les malades Covid. Le professeur Didier Raoult poussé vers la sortie, le microbiologiste controversé, âgé de 69 ans, devrait être incité à quitter la direction de l'IHU Méditerranée Infection qu'il a créé, qu'il pilote depuis 2011 à Marseille. Au-delà de son âge, ce sont ses thèses et ses déclarations surtout qui pèsent dans la balance. Dans le Var, l'incendie du massif des Morts n'est toujours pas maîtrisé, mais c'est en bonne voie. Le feu est moins violent, les pompiers luttent toujours contre de nombreuses reprises. À Marseille, un adolescent de 14 ans est donc mort dans une fusillade. Hier soir, un jeune du même âge et un enfant de 8 ans ont également été blessés, victimes de tirs de fusil automatique. La scène s'est déroulée à l'entrée d'une cité abritant notamment un trafic de drogue. Un nouveau vol d'exfiltré de Kaboul attendu ce soir à Roissy. À bord, une Afghane, prof de lycée, pour laquelle une compagnie de théâtre strasbourgeoise s'est mobilisée et qui viendra l'accueillir tout à l'heure avec sa famille. Mais des milliers de personnes continuent d'essayer d'accéder à l'aéroport de Kaboul. Les États-Unis accusent les talibans d'en entraver l'accès. Le football, Rennes-Rosenborg à 20h, en match de barrage aller de la Ligue Europa Conférence. C'est une nouvelle compétition, une troisième Coupe d'Europe. Mais pourquoi faire? Eh bien, nous verrons cela. Le temps, Claire Delorme, promis, ça va s'améliorer.
Oui, exactement. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Donc en matinée, pour l'instant, le soleil, on va surtout le retrouver pour les Pyrénées, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, encore la Méditerranée, enfin bref, surtout le sud-est. Et puis donc dans l'après-midi, les éclaircies vont quand même se développer, beaucoup plus au nord, même si on aura surtout encore beaucoup de nuages, hein, que ce soit en matinée ou même dans la journée, que ce soit vers la Bretagne, la Normandie, en remontant vers les Hauts-de-France. Pour la matinée, en température, il faudra compter entre 13 et 16 degrés en général, 17 à 23 degrés près de la Méditerranée et l'après-midi il faudra compter entre 21 et 24 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés ailleurs et encore des pointes très estivales de plus de 30 degrés. Où ça à votre avis?
Sur la Côte d'Azur.
Et bah voilà, près de la Méditerranée encore une fois.
Qu'ils en profitent. Merci Claire, on se retrouve à 18h30 pour Météoscope. Ce sera après votre programme télé du soir concocté par Laurent Marsic et avant votre entretien estival et demain avec une rencontre ce soir avec Pauline Deroulède, la championne de tennis fauteuil.
RTL Soir.
Ah, c'est pas pour casser l'ambiance dans les familles, mais les vacances ont une fin et elles s'approchent doucement dans moins de 2 semaines, donc le 2 septembre. Ce sera la rentrée des classes et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a voulu donner aujourd'hui un peu de visibilité aux parents et aux élèves pour cette rentrée évidemment menacée par le variant Delta. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste de l'éducation sur RTL. Jean-Michel Blanquer assure que les collèges et les lycées vont proposer la vaccination aux élèves.
Oui, et les rectorats sont en train de travailler avec les agences régionales de santé et les préfectures pour voir où on en est de la vaccination des 12-17 ans. Il y a des endroits où le taux est faible et on va plutôt alors privilégier la vaccination dans ces zones-là, dans les établissements, avec l'envoi d'équipes mobiles. L'autre option, c'est faire vacciner les élèves dans le centre de vaccination le plus proche de leur établissement. L'éducation nationale, avec les collectivités locales, pourra organiser les déplacements jusqu'à 16 ans et il faudra l'autorisation des parents.
Et alors, Jean-Michel Blanquer assure par ailleurs que la rentrée se fera sous protocole sanitaire. Mais lequel? Parce qu'il y en a quatre niveaux possibles.
Oui, et pour l'instant, on ne sait pas lequel sera appliqué. Ça devrait être tranché d'ici à lundi. Dans tous les cas, il faudra respecter les gestes barrières, la désinfection et l'aération des locaux, limiter le brassage des groupes d'élèves. Le port du masque sera obligatoire en intérieur à partir du collège si c'est le niveau 1 qu'on applique, mais dès le CP si c'est le niveau 2. Et puis il faudra aussi le porter en extérieur si on applique les niveaux 3 et 4. Alors, on ne sait pas pour l'instant et on n'en est pas là. Le ministre a parlé ce matin d'une rentrée la plus normale possible en présentiel. Il répète, les élèves n'ont pas besoin de passe sanitaire. Dès qu'un cas de Covid surviendra dans une classe en primaire, la classe fermera. En collège et lycée, les élèves vaccinés ne seront pas considérés comme cas contact d'un élève positif et pourront donc continuer à venir en cours, mais les autres non vaccinés devront rester chez eux.
Merci Marie Guerrier, voilà donc ce qui attend les élèves. D'ici là, quand même, profitez bien de ces derniers 15 jours. Dans ce contexte sanitaire marqué par la progression du variant Delta, Jean Castex était en visite aujourd'hui dans le Tarn à Albi. Il s'est notamment rendu à l'hôpital où les 12 lits de réanimation sont occupés. Plusieurs malades ont d'ailleurs été transportés cette semaine dans des hôpitaux du nord de la France. Et puis de nouveaux renforts de soignants vont être envoyés demain en Guadeloupe et en Martinique, d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours. Didier Raoult se voit donc rattrapé par la retraite. À 69 ans, il aura atteint dans quelques jours l'âge de cessation obligatoire d'activité pour les professeurs d'université. Le microbiologiste accoutumé des prises de position controversées durant la crise du Covid pourrait donc quitter cet institut hospitalo-universitaire, l'IHU de Marseille, qu'il a lui-même créé il y a 20 ans et qu'il dirige depuis. Alors c'est vrai, il aurait pu bénéficier du cumul emploi-retraite, mais ça n'est pas apparemment l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, Sophie Jousselin.
Oui, et les remous que Didier Raoult a provoqués au sein de la communauté scientifique n'y sont certainement pas étrangers. On se souvient de son entrée tonitruante dans cette pandémie. En mars 2020, il annonce le traitement miracle, l'hydroxychloroquine, testé avec succès en Chine.
C'est efficace, c'est recommandé pour tous les cas d'infection au coronavirus chinois. Donc c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter.
Et tout logiquement, deux mois plus tard, Didier Raoult annonçait la fin de l'épidémie.
Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague. L'épidémie est en train de se terminer.
Aujourd'hui, en pleine quatrième vague, il n'y a toujours pas de traitement. L'épidémie n'est finalement pas terminée. Mais sur YouTube, Didier Raoult continue de l'analyser avec parfois des propos assez déconcertants. Récemment, il suggérait de tester l'efficacité du Vicks-Vaporub contre la maladie.
Est-ce que la paraffine dans le nez ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le Vicks, il ne paye pas le Vicks, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez ou non? Qui le sait ça?
Ces derniers propos mettant en doute l'efficacité du vaccin, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase alors que les autorités sanitaires font face à une grave crise aux Antilles et appellent chacun à se faire vacciner.
Sophie Jousselin, au quatrième jour de l'incendie du massif des Morts dans le Var, le plus important de l'année en France. Donc le feu a parcouru alors qu'il est plus de 8000 hectares. Il a brûlé 6300 hectares de forêt. L'incendie n'est pas totalement maîtrisé, mais l'amélioration est certaine malgré des reprises de feu. Raphaël Vantard, vous êtes en direct pour RTL, vous êtes près de Cogolin.
Ouais, la situation, clairement, de cet immense incendie s'améliore, même si ce soir, il n'est pas encore circonscrit. C'est-à-dire que toutes les lisières du feu ne sont pas encore éteintes. Les flammes s'étendent encore sur des dizaines de kilomètres. Des fumées continuent de monter de ce massif de la Plaine des Morts. Les alentours de Cogolin offrent ce soir un paysage meurtri, noirci par les cendres. Les habitations, les arbres, les câbles calcinés jonchent une route où le bitume a parfois fondu. Plus au nord, sur les communes du Luc, de Vidauban, il y a encore des reprises de feu. Le lieutenant-colonel François Barretti dirige les secours sur le secteur sud de l'incendie.
Il y a encore des reprises sur le feu. C'est des reprises qui sont essentiellement dans la partie non brûlée, dans ce qui a été parcouru par le feu, mais qui n'est pas encore brûlé. Le feu ayant parcouru la forêt à grande vitesse, certaines portions sont effectivement encore, comme on dit, vertes et susceptibles de s'enflammer à tout moment. On va vers le mieux.
Les rotations de Canadair vont s'arrêter d'ici quelques minutes pour la nuit. Le feu va évidemment rester sous surveillance. Les pompiers espèrent le circonscrire totalement dans la journée de demain.
Raphaël Vantard, envoyé spécial d'RTL dans le Var. Et puis en Indre-et-Loire, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre involontaire après la mort d'une femme en stage de naturopathie. Cette femme était âgée de 44 ans. Le stage se déroulait dans un château près de Tours. Lors de ce séjour, les participants pratiquaient des jeûnes hydriques, des périodes sans rien manger, en ne buvant que de l'eau. Mais la cause de la mort reste encore à déterminer, selon le procureur de la République de Tours. On marque une courte pause et puis dans un instant, On parle de cette fusillade à Marseille qui a coûté la vie hier soir à un garçon de 14 ans.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Un adolescent de 14 ans a donc été tué par balle hier soir, un autre du même âge blessé, mais il est ce soir tiré d'affaire. Un enfant de 8 ans a lui aussi été légèrement blessé par ce commando de deux hommes arrivés en scooter et qui ont tiré au fusil automatique à l'entrée de la cité des Marronniers, là où se tiennent habituellement de jeunes guetteurs dans cette cité connue comme étant un point de deal. Alors les habitants soulignent d'ailleurs que la tension était vive depuis plusieurs semaines, qu'il y avait déjà eu des échanges de coups de feu. Hugo Hamelin, vous avez rencontré la famille de l'enfant de 8 ans légèrement blessé dans cette fusillade.
Oui, Andrea et sa famille habitent une résidence proprette qui surplombe le lieu de la fusillade. Hier soir, ce père de famille et ses deux enfants rentraient d'un dîner et se sont retrouvés pris au milieu des coups de feu. Son fils, âgé de 8 ans, a été légèrement touché au front.
C'est comme un film, des armes, des problèmes.
Qu'est-ce qui s'est passé pour votre fils ?
Ils sont touchés des éclairs à côté de la tête.
Des éclairs ?
Oui, et on a resté beaucoup choqués, même les voisins, ils ont resté choqués. On va déménager de là, parce que c'est dangereux. On ne peut pas vivre là, on ne peut pas rester ici.
La principale victime, un adolescent de 14 ans, a été criblé de balles en essayant de fuir dans le garage souterrain. Une autre habitante sortait à ce moment-là en voiture. Elle a pris deux balles de Kalachnikov dans son pare-brise. Tous les résidents de cet immeuble ont vu ou entendu les coups de feu, les cris, les sirènes.
J'ai pas peur pour moi, mais j'ai plutôt peur pour mes enfants. Surtout pour mon fils. Moi, il va à droite, il va à gauche, ils sont avec les vélos et tout. Je vais acheter les poignées avec les clés. Je vais m'enfermer dans ma maison. Comme ça, le petit ne sortira plus dehors.
La tension autour de ce réseau était palpable depuis quelques mois. L'un des résidents, un jeune homme d'une vingtaine d'années, pas vraiment choqué par cet homicide, me disait à propos des semaines précédentes « Quand en sortant de chez toi, tu tombes sur un mec équipé d'un fusil à pompe, il n'y a plus rien qui te choque. »
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Les exfiltrations de Kaboul continuent. Le troisième vol de rapatriés en provenance de la capitale afghane est attendu ce soir à Paris, avec à bord des Français, des Afghans ayant travaillé avec la France, mais pas seulement. Et c'est donc un immense soulagement pour les artistes d'une compagnie de théâtre strasbourgeoise baptisée La Soupe. Ils se sont mobilisés depuis plusieurs jours pour exfiltrer une professeure afghane avec qui ils avaient écrit une pièce de théâtre. Et donc, elle a pu prendre ce troisième avion de rapatriement de justesse avec sa famille. Les artistes strasbourgeois sont donc partis ce matin d'Alsace pour aller l'attendre tout à l'heure à l'atterrissage. Yannick Collant.
Oui, après des journées d'angoisse, Eric et Iseu sont enfin à Roissy pour accueillir Camilla, une Afghane de 58 ans, et toute sa famille.
Elle écrit de la poésie de résistance, de la poésie qui lutte contre les lois patriarcales. Et plusieurs de ses textes sont joués, interprétés dans notre spectacle.
Camilla a été du coup de plus en plus menacée en Afghanistan. Un membre de sa famille a même été assassiné. Mais l'évacuation a été très compliquée car une partie de ses enfants n'avait pas pu se réfugier à temps à l'ambassade de France.
Elle a pu entrer dans l'ambassade avec son mari, mais il restait encore un fils. Sa femme et les petits-enfants dehors à l'extérieur de l'ambassade.
Donc là, ça a été une course contre la montre.
C'était une course contre la montre.
Course contre la montre, essayer de contacter l'ambassade, essayer de trouver le maximum de contacts ici en France.
Mais les personnes qu'on a pu joindre à l'ambassade nous ont dit « mais dehors, c'est pas possible. Et si on ouvre la porte, on ne pourra peut-être même pas évacuer personne. » Enfin bref, donc le lundi, ça a été l'abattement total.
On s'est dit c'est mort.
C'est mort. Et puis mardi, il y a eu un rebondissement et ils ont réussi à entrer dans l'ambassade.
Et les porter jusqu'à l'aéroport pour éviter les barrages, ils ont enfin pu quitter Kaboul à bord des avions français de rapatriement. Ils poseront le pied à Paris ce soir, enfin. En sécurité.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL et puis aux États-Unis, nouvelle alerte au Capitole à Washington, le siège du Congrès américain envahi, vous en souvenez, par les militants pro-Trump. Une voiture pouvant contenir des explosifs a été retrouvée tout à l'heure, isolée. Inquiétude donc après la découverte de ce qui pourrait être des explosifs. Le Congrès n'est pas en séance, mais les employés ont été évacués. Le sport, le foot, à l'heure européenne, puisque Rennes reçoit ce soir l'équipe norvégienne de Rosenborg en match de barrage aller de la Ligue Europa Conférence, coup d'envoi 20h. Alors, on connaît la prestigieuse Ligue des Champions et sa petite sœur, la Ligue Europa. C'est donc une nouvelle Coupe d'Europe, la troisième dans la hiérarchie. Mais alors, pourquoi faire, Nicolas Georgerot ? Pourquoi avoir créé cette compétition ?
Eh bien, pour l'UEFA, une façon d'intégrer plus de clubs, plus de marchés aux épreuves continentales. Les dirigeants européens souhaitent voir à l'avenir plus d'une trentaine de nations différentes concernés par les trois Coupes d'Europe, notamment ces pays à l'Est qui coincent très souvent en barrage de Ligue des Champions ou de Ligue Europa. Jean-Pascal Gaillant, docteur en sciences économiques, spécialiste des institutions sportives.
Au-delà des considérations, on dirait électoralistes à l'UEFA ou géopolitiques, économiquement, c'est finalement un bénéfice de réintégrer dans le bal européen ces clubs, de faire progresser les droits de diffusion à nouveau et les recettes de l'UEFA. Donc c'est un petit peu des visées économiques et des visées géopolitiques qui sont à l'origine de la création de cette nouvelle Coupe d'Europe.
Les deux équipes engagées avec le plus de références pour l'instant sont Tottenham et l'AS Rome. Les rencontres se dérouleront en même temps que celle de la Ligue Europa le jeudi de à 18h45 et 21h. Finale à Tirana, en Albanie, en mai prochain. La Ligue Europa Conférence aura du mal à se défaire tout de même de l'image d'une consolante. La dotation n'a rien à voir. 2 milliards d'euros à se partager entre les clubs en Ligue des Champions. 10 fois moins, 230 millions pour la nouvelle compétition.
Merci beaucoup Nicolas. Jean Giraud, on marque une courte pause. Et puis dans un instant, avant le festival d'Angoulême de la semaine prochaine, Dominique Besnéard sur RTL. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, le délégué du Festival du film francophone d'Angoulême, mais bien au-delà de cette fonction, j'ai envie de dire monsieur cinéma, voire monsieur 10%. Bonsoir Dominique Besnéard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous à quelques jours de l'ouverture du Festival d'Angoulême, donc qui va se dérouler du 24 au 29 août. Sous la présidence de Nicole Garcia, avec l'Algérie en invité d'honneur, on va y venir. Mais j'ai tout d'abord envie de vous demander, la marque de fabrique de ce festival, on le sait, c'est d'être ouvert au public, d'être très populaire. Je crois que des dizaines de milliers de personnes viennent chaque année. Est-ce que ça pourra encore être le cas cette année, malgré le pass sanitaire ?
Ben, j'espère que cette année, ça va être la vitrine du cinéma français, qu'on va revenir au cinéma. Mais vous savez, l'an dernier, on était les seuls à être les premiers à faire un festival. Et on avait fait quand même 27 000 personnes, alors qu'on était en pleine incertitude. Et cette année, le pass sanitaire est là. Et les gens savent que c'est essentiel. Donc là, on voit très bien que la fréquentation va être très importante, puisque on a déjà vendu 2000 passes de Vivas et 20 000 personnes, parce qu'il y a 10 films pour un pass. Ah oui. Donc vous voyez, les gens ont envie de retourner au cinéma. Oui. Mais c'est vrai que c'est essentiel que les gens se fassent vacciner avant de rentrer dans la salle.
Et vous avez parlé de vitrine, la vitrine est belle cette année encore. Hein. Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Romain Duris, Pierre Niney.
Vous savez, moi j'ai quand même été, comme vous dites, 10%, monsieur 10% pendant 20 ans. Heureusement que je me suis fait des amitiés, pas seulement leur avoir pris 10% de leur salaire. Donc il y a quand même une reconnaissance. Et puis c'est vrai que maintenant ça devient un rendez-vous incontournable, parce que fin août, les gens ont envie de voir des films. Et nous, on n'a jamais eu vraiment de problème pour avoir les acteurs et les films. Parce que dès la 3e ou 4e année, il y a eu Intouchables qui a permis au festival d'être incarné et d'avoir un succès tel qu'ensuite on a eu la confiance de tous les distributeurs.
Il n'y a pas qu'un Touchable d'ailleurs qui a été lancé par ce festival d'Angoulême. On peut parler d'Hippocrate, les garçons et Guillaume Attal aussi, oui c'est ça.
Et puis même dernièrement Antoinette dans les Cévennes, l'année dernière quand même, après l'année catastrophique de fréquentation, il a quand même fait 800 000 entrées. Parce que nous, notre ligne, c'était souvent, on voyait les films à la semaine de la critique. Donc la semaine de la critique, c'est une section parallèle de Cannes, mais qui a moins d'amplitude que la compétition officielle. Et souvent, le chemin, c'était de venir à Angoulême pour juste avant la sortie. Et donc, il y a eu énormément. On a eu vraiment des films qui ont très très bien marché, hein, c'est vrai. Mmh. Cette année, on a eu une difficulté, qu'il y avait tellement de bons films qu'on a eu du mal à s'arrêter sur 10 films en compétition. On avait vraiment un mal fou. On était obligé de se dire, on est obligé d'en rajouter deux. Les salles ont été fermées, mais la création existe beaucoup. Il y a des très bons films qui vont sortir là.
Donc 10 films dans cette compétition. On a parlé dans le passé des succès d'Hippocrate et autres. Quel est le succès annoncé?
dans cette sélection, d'après vous ?
Moi, dans la compétition, c'est très compliqué, mais il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Petite Nature de Samuel Tess. Samuel Tess avait fait un film qui s'appelait Party Girl. C'est un très, très beau film. C'est l'histoire d'un gamin de 10 ans, enfin pas de 10 ans, qui est fou amoureux de son professeur homme. Et là, c'est bouleversant. Il est en manque affectif. Et c'est tout d'un coup, le harcèlement d'un enfant vis-à-vis d'un prof. Et c'est un film très, très fort. Et j'ai beaucoup aimé dans un tout autre genre, La Boîte Noire de Yann Gozlan, qui est un thriller un peu d'anticipation, qui est extraordinaire, avec Pierre Niney, qui est dans deux films, puisqu'il est aussi dans le film de Nicole Garcia, qui n'est pas en compétition, mais qui est présenté. Parce qu'on a 10 films en compétition, 16 films en avant-première, et des hommages, comme vous avez dit, de l'Algérie, un hommage à un cinéaste contemporain, Martin Provost. On a plein de, comme à Cannes, il y a plusieurs sections. Voilà.
Et une présidente, ou un président, en l'occurrence, c'est une présidente, Nicole Garcia, qui a un rôle important à jouer.
Ah oui, mais en plus, Nicole, c'est une amie, on est des très amis, mais elle n'avait jamais pu venir parce qu'elle travaillait. Et là, elle est entourée de Reda Kateb, puisque c'est l'Algérie, donc il est d'origine franco-algérienne. Et puis Nicole Garcia, elle est née à Oran. Il y a Marie-Anne Diaye, qui est auteur et romancière et auteur de théâtre, puisque c'est celle qui a écrit la pièce que joue actuellement Nicole Garcia à Avignon et qui est reprise à Paris. Il y a Antonin Baudry, il y a Noé Schmidt qui est une jeune actrice suisse qui était dans cette série qui a très bien marché sur le 36-15 Monique. Il y a Philippe Vandeleu qui est un cinéaste belge. Il y a Catherine Le Terrier qui est une grande costumière. Il y a rarement des costumiers dans les jurys. Il y a Oxmo Puccino et Leïla Kaddour qui est à France Télévisions. Et voilà. Et
évidemment, on suivra ça sur l'antenne d'RTL notamment.
Oui, d'autant plus que vous êtes notre partenaire.
Eh bien voilà.
Qui est là depuis très très longtemps. Hein.
Et Stéphane Boutsock sera d'ailleurs en direct d'Angoulême dans Laissez-vous tenter tous les matins de mardi à vendredi. Évidemment, on vous souhaite bon vent. J'ai encore une question évidemment qui concerne la série 10%. Vous y avez fait allusion. Il y aura donc une saison 5 ?
Non, il n'y a pas de saison 5, mais il y a un unitaire de 90 minutes, voire plus long, qui va se tourner la moitié aux États-Unis à New York, puisque le personnage de Camille Cotin, Andrea, va travailler à New York, dans une agence, et ça va être... Et voilà, et donc on fera la première partie à New York, et ensuite elle revient en France, retrouver tous ses collègues.
Et on verra ça quand ?
On va tourner en début 2022 et ça sera en septembre 22, voilà.
En tout cas, voilà, le cinéma, la saison du cinéma va vraiment repartir avec vous à Angoulême, avec ce festival du film francophone d'Angoulême. Merci beaucoup, Dominique Besnéard.
Merci beaucoup, hein. Au revoir.
Au revoir d'avoir été sur RTL ce soir, au revoir. Il est 18h24, on va marquer une courte pause et dans un instant se faire livrer notre plateau de télé.
RTL Soir.
Plus loin.
Vincent Parisot, RTL Soir.
C'est donc l'heure de jeter un œil sur notre programme télé de la soirée. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Vincent.
Alors un petit moustachu, un chien et puis un enveloppé
comme il dit. Ouais.
C'est du patrimonial ce soir sur TF1.
Du patrimonial qui date de 1999 exactement. Cette saison 2021-2022 va être marquée par deux événements au rayon BD. D'abord avec la sortie en octobre du nouvel album BD d'Astérix et Obélix. Et normalement, au premier semestre 2022, l'arrivée au cinéma de la version Guillaume Canet d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dont le tournage s'est terminé cet été. TF1 diffuse donc ce soir le premier film en chair et en os d'Astérix et Obélix, version Claude Zidi, Astérix et Obélix contre César, avec un duo Depardieu et Clavier.
Je suis Obélix, légionnaire à la deuxième cohorte, troisième manipule.
Et moi ?
Toi, tu es Astérix, mon meilleur ami.
Tu me fais exprès ou quoi ?
Non, tu es Astérix, un infâme espion gaulois.
Bien, et à qui veux-tu me livrer ?
Ah ben, je sais plus, moi. D'habitude, c'est des menhirs que je livre pas des amis.
À César, à
abruti.
D'accord, à César abruti.
Bon,
c'est la parole de Jules César.
Astérix et Obélix contre César, TF1, 21h05.
Allez, un peu d'évasion pour continuer.
Avec un numéro, le dernier de la saison sur France 5, des trains pas comme les autres, embarquement pour les Pays-Baltes à la découverte de la Lituanie, des paysages au charme fou, des curiosités, vous y verrez par exemple une montagne de croix où tout un chacun peut venir faire un vœu, un étrange train touristique, véritable trésor national, ou encore cet étrange métier dans un petit cimetière non loin de Vilnius où Philippe Googler va faire une drôle de rencontre avec un homme qui passe de tombe en tombe.
Oui. Ses descendants m'ont demandé, il y a quelques années, de venir pleurer régulièrement sur la tombe de leurs défunts parents. Les gens te donnent quelques euros pour pleurer de temps en temps sur les tombes. C'est une vieille tradition ici. Mais parfois, certains préfèrent que je chante. Pleurer sur commande, c'est pas facile. Ça me demande beaucoup d'énergie.
Voilà. Pleureur rémunéré, des trains pas comme les autres ce soir sur France 5. L'émission a réalisé une de ses meilleures saisons cet été. Et puisqu'on est dans l'Est, partons dans l'ex-Tchécoslovaquie pour vous signaler une très chouette mini-série singulière que diffuse ce soir et jeudi prochain Arte, un espion très recherché. On est à l'aube de la révolution de velours en 1989. Il y a du bureau des légendes dedans, avec une bonne dose de paranoïa, un soupçon de la série Homeland. C'est rare et génial pour être signalé. Le personnage central est une femme. En général, dans les films d'espionnage, ce sont les hommes. Si vous êtes fan des séries d'espionnage, c'est pour vous, c'est produit par le bureau HBO Europe, donc c'est plutôt gage de qualité, c'est sur Arte, 20h55.
Une série atypique donc, atypique comme l'était eh bien ce chanteur, auteur, compositeur génial, poète que France 2 remet en lumière ce soir, Alain Bachung.
Assez tard, 23h45, Osez Bachung, c'est le titre d'un doc consacré effectivement à Alain Bachung, sa vie chaotique, ses succès au bout de 10 ans de carrière, Bachung et ses chansons parfois déroutantes, voilà ce qu'il en disait.
Tu lis un de mes textes, bon, c'est assez bizarre quand même. C'est pas toujours très clair et c'est voulu parce que ça vient du fait que j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'un soir à l'autre, j'ai envie de chanter ça d'une manière différente. Et comme il y a plusieurs sens, d'un soir à l'autre, je peux chanter la chanson complètement différemment si j'ai envie. Je me sens un peu coincé par la langue française qui est très belle, mais qui pour certaines choses ne suffit pas ou je sais pas, on a envie qu'elle vive. Et puis on l'a fait, je crois qu'on l'a fait vivre comme ça. Les puristes devraient être contents qu'on la fasse vivre.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains.
Documentaire chronologique jusqu'à sa disparition avec plein de témoignages dedans, notamment de Jane Birkin ou encore sa veuve Chloé Mons, les proches collaborateurs. Osez Bachung, 23h45 sur France 2. Si vous travaillez demain, enregistrez-le, ça vaut le coup d'œil.
Et d'oreille, évidemment. Et d'oreille. Merci beaucoup.
J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Accaparé seulement, accaparé.
RTL,
18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
L'essentiel de l'actualité, tout d'abord, avec la feuille de route de Jean-Michel Blanquer pour la rentrée des classes du 2 septembre. Les écoles ouvertes, un protocole sanitaire à 4 niveaux, on ne sait pas encore lequel. Et puis surtout, une incitation à la vaccination pour les 12-17 ans, soit dans les établissements, soit en dehors des établissements avec des sorties organisées. Pour les moins de 12 ans, la vaccination, dit le ministre de l'Éducation, n'est pas d'actualité. Didier Raoult, poussé vers la sortie, le professeur controversé, âgé de 69 ans, devrait être incité à quitter la direction de l'IHU Méditerranée Infection qu'il a lui-même créé et pilote à Marseille depuis 2011. Au-delà de son âge, ce sont surtout ses thèses et ses déclarations qui pèsent dans la balance. Dans le Var, l'incendie du massif des Morts n'est toujours pas maîtrisé, mais il est en passe de l'être. Le feu est beaucoup moins violent. Les pompiers luttent tout de même contre de nombreuses reprises. À Marseille, un ado de 14 ans a été tué hier soir dans une fusillade. Un jeune du même âge a été blessé. Il est hors de danger ce soir. Un enfant de 8 ans a été plus légèrement atteint. La scène s'est déroulée à l'entrée d'une cité abritant un trafic de drogue. Un nouveau vol d'exfiltrés de Kaboul attendu ce soir à l'aéroport de Roissy. Pendant ce temps, des milliers de personnes continuent d'essayer d'accéder à l'aéroport de Kaboul. Les États-Unis accusent les talibans d'en entraver l'accès pour les Afghans qui souhaitent quitter le pays. Et puis le football. Rennes-Rosenborg, 20h ce soir en match de barrage aller de la Ligue Europa Conférence. C'est une nouveauté, une troisième Coupe d'Europe. Alors c'est l'heure de Météoscope, Claire Delorme. Le soleil revient, vous nous l'annoncez, timidement pour l'instant.
Oui, timidement, mais sûrement. Alors le soleil, évidemment, il sera encore présent en matinée, même toute la journée, hein, que ce soit pour les Pyrénées, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, enfin, l'extrême sud-est en général. Pas impossible hein, qu'on puisse avoir localement une petite averse orageuse en Corse, mais ça sera surtout sur les reliefs. Partout ailleurs, en matinée, ça sera surtout les nuages qui vont encore dominer une bonne moitié nord du pays, jusqu'en Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes, mais bonne nouvelles, de belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer au fil des heures, à l'exception quand même hein, de la Bretagne, la Normandie, le Pays de Caux, les Hauts-de-France, les Ardennes où le soleil sera vraiment très timide pour ne pas dire quasi absent avec encore localement quelques bruines et du brouillard. Pour les températures, en matinée il faudra compter entre 13 et 16 degrés en général, quelques degrés de plus évidemment près de la Méditerranée, entre 17 et 23 degrés, et dans l'après-midi ça augmente légèrement, il faudra prévoir 21 degrés à Cherbourg, 24 à Lille, 25 à Paris, 26 à Besançon, 27 à Clermont-Ferrand, 29 degrés à Agen et jusqu'à 32 degrés à Nîmes.
Donc petite amélioration. Et alors pour ce week-end ?
Alors pour ce week-end, samedi, on pourra profiter d'une très belle journée, mais avant l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest, donc elle va arriver dans le courant de la soirée, nous concerner toute la nuit et puis donc dans la journée dimanche, on va surtout la retrouver à l'est du pays, alors qu'à l'arrière, ça sera un ciel de traîne qui va se mettre en place. Samedi, on aura d'ailleurs en prime un petit coup de chaleur, hein, donc il faudra ressortir les t-shirts et les maillots, et ça ne sera que de très courte durée, car à partir de dimanche, justement, les orages vont rafraîchir toute la masse d'air.
Merci beaucoup.
Avec
il
plaisir.
Faut s'y faire.
Et oui.
C'est comme ça cette année, l'été.
Ça allez, va, ça vient.
Courte pause. Dans un instant, rencontre avec Pauline Deroulède, la championne de tennis fauteuil. Vous savez, elle avait perdu sa jambe dans un accident en 2018, percutée à l'arrêt en scooter par une personne âgée qui avait perdu le contrôle de sa voiture. Avant cela, elle était prof de tennis. Et elle sera dans un instant sur RTL dans la chronique et demain pour parler de l'après-Covid.
RTL Soir. Guillemette Franquet sur RTL. Et demain.
Et demain. Oui, et demain, après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose ce regard vers l'avenir. Chaque jour, un entretien avec une personnalité. Comment le Covid a bouleversé nos vies? Comment préparer la suite? Aujourd'hui, Guillemette Franquet rencontre la championne de tennis fauteuil, Pauline Deroulède.
Bonjour Pauline Deroulède.
Bonjour, merci de me recevoir.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va mieux. La période a été dure, on sort d'une grosse crise avec un peu tout à l'arrêt. Et moi étant maintenant sportive de haut niveau, je fais du tennis en fauteuil. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de compétition au moment où j'attendais vraiment cette compétition, cette année de compétition-là. Donc c'était dur, il a fallu s'adapter. Mais en même temps... J'ai eu de la chance puisque j'ai pu continuer à m'entraîner grâce à mon statut. Donc c'était une chance, mais c'est vrai que j'espère que ça va aller mieux.
Comment elle s'est passée pour vous cette année qui vient de s'écouler ?
Cette année, elle a été longue. Je me souviens du premier confinement qui a été très très compliqué sur le plan psychologique. Moi, je l'ai très mal vécu parce que c'était quelques temps après l'accident que j'ai eu où j'ai perdu ma jambe. Et ça m'a rappelé finalement l'hôpital, ce temps qui est à l'arrêt où on subit et on peut pas être dans l'action parce qu'on doit rester chez nous. Et finalement, passé un certain temps, je me suis dit que j'avais une énorme pensée à tous les soignants qui étaient sur le pont. Donc voilà, j'ai essayé de relativiser et de me dire que j'étais malgré tout très privilégiée d'être là où j'étais.
Vous avez la sensation d'avoir quand même appris cette année ?
Non, enfin, pour moi, c'est voilà, on en a fait tout un truc du Covid. Je pense qu'il faut relativiser. Évidemment, il y a des gens qui sont morts. Je pense que ça nous ramène à la peur de la mort qu'on a tous.
Vous avez eu peur de la mort avec le Covid ?
Ah, pas du tout. Non. De par mon histoire, la mort, je l'ai approchée de près, puisque j'ai été victime d'un accident où j'ai été fauchée sur un trottoir parisien. Bon, j'aurais pu mourir, mais je suis encore en vie et je sais que j'ai beaucoup de chance. Et le fait d'avoir vécu cette épreuve, ce drame, ça m'a fait relativiser beaucoup de choses.
Ça a été quoi pour vous, votre bouffée d'air frais cette année ?
Ma bouffée d'air frais, mon premier bon souvenir post-Covid, je dirais, ça a été quand je suis allée à Roland-Garros. J'ai eu la chance voilà, de retourner à Roland avec du public. Alors certes, il y avait les masques, mais on était tellement heureux d'être ensemble à nouveau. Et on ressavoure les petits plaisirs qu'on avait finalement avant et qui paraissaient être normaux. Et ça, c'est agréable. Mais peut-être que justement, la période post-Covid, on pourra en tirer des leçons, notamment celle de profiter de ce qu'on a en fait.
Et j'allais vous demander ça justement. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain ?
Il y a vraiment eu, je pense, j'espère, hein, vraiment une prise de conscience de la part de tout le monde. Parce que malheureusement, j'ai parlé dans mon cas, quand on a un drame dans une vie, on réalise finalement que bah, voilà, la fameuse phrase « la vie ne tient qu'à un fil », qu'il faut profiter de chaque instant. On a la chance d'avoir ce qu'on a, les libertés qu'on a, et qu'il faut en profiter.
Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous choisiriez quoi ?
Je dirais, je l'associerais quand même au mot « peur », parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qui revient... Il y a vraiment une vraie psychose autour de cette maladie qu'on ne connaît pas. Et je dirais la peur et l'inconnu, surtout l'inconnu.
Est-ce qu'il y a un son ou une musique qui vous a accompagné pendant le confinement, que vous avez beaucoup écouté
Moi, la chanson d'Angèle, Fever.
Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne...
Parce que ça me donnait la patate et que finalement c'est ça, il faut avoir la fièvre de la vie, il faut garder la flamme. Donc ça booste.
Merci beaucoup Pauline Desrouledes.
Merci à vous.
Et merci à vous Guillemette Franquet pour Et Demain. Et justement, bien sûr, on vous retrouve demain.
Cette mur au sort
du cri s'est abattu sur le monde.
Martial Lyon sur RTL.
La révolution industrielle était en marche et notre standard de vie suivait la courbe ascendante du progrès mécanique.
Après la crise.
Et oui, parce qu'après la crise, il y a parfois de véritables révolutions. L'histoire commence parfois dans le sang ou les larmes, mais ça peut ouvrir de grands changements. C'est ce qu'on vous raconte dans cette série Après la crise. Alors aujourd'hui, on va aux États-Unis où tout commence par la guerre entre voyous et policiers et finit avec une réforme du mode d'élection et un président destitué. C'est donc, au départ, la prohibition. Martial You, avec l'aide de Claude Zighetti du service des archives d'RTL.
Le 16 janvier 1920, les autorités fédérales américaines mettent en place le 18e amendement qui interdit la fabrication, le transport et la vente d'alcool. C'est le début de la prohibition et de la corruption à grande échelle. L'alcool arrive par bateau des Bahamas, des Bermudes, par camion des distilleries canadiennes. Dans la cave du 21 Club de New York, mafieux, juges et élus locaux se retrouvent au rythme du jazz et commencent à faire de l'argent grâce à la contrebande d'alcool. Anne Loucotte, professeure à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
C'est le signe d'une gangrène. Vous avez une alliance entre un personnel politique très corrompu dans les grandes villes, des mafias qui viennent de tous les pays. Donc il y a un gouvernement de ces immenses villes qui sont récentes, qui est extrêmement corrompu. Et la prohibition, ça a été le moyen de donner le pouvoir économique pour un certain nombre de loisirs, les restaurants, les bars, la prostitution, etc., aux mafias.
Ce sont les policiers de la brigade financière qui traquent les voyous. À Chicago, c'est le début de l'affrontement entre un certain Elliot Ness, l'incorruptible, et Al Capone.
Au cours des dernières semaines de mars 1931, Elliot Ness et les incorruptibles portaient une sérieuse atteinte à la stabilité de l'empire criminel d'Al Capone.
La société américaine est violente. Guerre de gangs, mais aussi affrontements de rue. Le Ku Klux Klan souffle sur les braises du racisme et des plaies mal cicatrisées de la guerre de sécession, car l'Amérique a accueilli environ 1 million de migrants chaque année entre 1900 et 1915. L'alcool est considéré comme un accélérateur de violence, mais c'est d'abord cette population pauvre venue d'ailleurs qu'on veut chasser.
L'immigration européenne est une immigration qualifiée. Sur la côte Pacifique, c'est l'immigration chinoise qui là est une immigration pauvre. Donc c'est du côté du Pacifique de l'immigration chinoise que les tensions commencent. Et en 1924, on a la grande loi anti-immigration qui met fin relativement à ce qu'on appelait la porte d'or de Golden Door, qui permettait cette immigration massive. Les tensions raciales et les tensions ethniques seront très 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 fortes et très violentes pendant toute cette époque.
Dans ces villes qui poussent comme des champignons en forme de gratte-ciel, les ouvriers vivent dans des conditions misérables. Les femmes, les enfants travaillent sans aucune protection. Les morts se multiplient par centaines à longueur de journée. C'est à ce moment-là que va apparaître une nouvelle race de journalistes engagés.
Les muckrakers, les fouilles-boues qui vont dénoncer les conditions de travail des enfants, les conditions de logement à Chicago, la corruption dans les grandes villes. Ce rôle de la presse qui commence à avoir des tirages absolument gigantesques à l'image des grandes villes. Une nouvelle génération d'écrivains, une nouvelle génération de journalistes, une nouvelle génération de photographes. L'industrie du cinéma également avec Chaplin qui vont dénoncer les conditions de travail des immigrants.
La tradition du journalisme engagé, le quatrième pouvoir de la presse qui naît de cette crise, trouvera son apogée en 1974 avec les révélations du Washington Post qui feront tomber un président des États-Unis.
Le dossier Watergate. C'est l'ancien conseiller juridique de Nixon qui pourrait bien mettre à son tour le président en difficulté demain.
Mais ce n'est pas le seul changement durable qui est né lors de la prohibition. C'est à cette époque que certains hommes politiques intègres vont inventer un nouveau système de désignation des fonctionnaires et des élus dans les villes. On va demander à la population de désigner un candidat. Le but est clair, lutter contre la corruption des élites. C'est l'invention des primaires.
Michigan, Mississippi, Missouri, you will be heard.
L'idée était de rendre transparent, d'une part, l'accès à la fonction publique et d'autre part, pour les élections majeures, de soumettre au vote des citoyens le choix entre plusieurs candidats. Ce qui évitait que le maire désigne son successeur, qui désigne son successeur, qui désigne son successeur, et ainsi de suite pour les grands établissements publics des grandes villes. Donc il y a une volonté de transparence.
En 1933, Franklin Delano Roosevelt met un terme à la prohibition. Il en profite pour mettre en place de nouvelles taxes sur l'alcool qui l'aideront à financer les millions de dollars qu'il va injecter dans son plan de relance, le New Deal.
Voilà donc, merci beaucoup Martial You, une série que vous allez continuer à écouter sur RTL jusqu'à la fin de la semaine. Et justement pour la fin des vacances ou les premières heures de la rentrée, d'ailleurs vous pouvez retrouver Martial You dans un livre consacré aux conséquences de la pandémie de Covid intitulé « Et si la crise sanitaire était une chance ?» C'est aux éditions de l'Archipel. Allez, courte pause et puis dans un instant, votre laissez-vous tenter de l'été avec Laurent Voulzy qui va vous accueillir chez lui.
RTL Soir.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Le laissez-vous tenter de l'été avec une petite visite sur les bords de Marne du côté de Nogent-sur-Marne. C'est avec Laurent Voulzy et Steven Bellery.
Avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors après Vianney, après Calogero, Pascal Obispo, eh bien c'est au tour de Laurent Voulzy aujourd'hui de nous ouvrir les portes de son studio d'enregistrement. Car le chanteur a publié cet hiver Florilège, une nouvelle compilation de ses plus grands succès. 36 chansons, 2 CD et même quelques raretés, des morceaux pour certains imaginés et enregistrés dans son studio de Joinville-le-Pont à l'est de Paris.
Une maison moderne aux murs blancs en bord de Marne. Le chanteur y a installé son studio en 1996 après des années à bricoler des chansons dans son pied-à-terre parisien. Sur le pas de la porte, Laurent Voulzy nous attend.
Un jour, on était en train d'enregistrer chez moi, dans mon appartement, dans ce petit studio que j'avais. C'était un jour d'été, il faisait très chaud. Et j'ai dit, allez, on va manger sur les bords de Marne. Et là, j'ai eu un flash, je me suis dit, c'est le rêve. Il y avait des gens qui se baignaient, des gens qui faisaient du canotage. Je me suis dit, mais c'est quand même un peu formidable. En plus, c'est un coin que je connaissais très très bien, puisque j'ai été élevé, moi, à Nogent. Et donc, voilà, j'ai trouvé cet endroit tout à fait charmant, en face de la rivière, parce que j'adore l'eau. Ou être devant la mer, ou être devant une rivière.
Je rêve d'eau. Mais d'océan à l'océan, au-dessus des vivres de paix.
Et ce studio, Laurent Voulzy l'a d'ailleurs baptisé « Au bord de l'eau ». Le chanteur vit désormais dans cette petite bâtisse. Première surprise en entrant, on tombe sur 2 voitures.
C'est l'entrée du garage, alors il y a 2 vieilles voitures. Une voiture anglaise, j'adore les voitures anglaises. Et ça, c'est ma première voiture. C'est une Austin. Ma première vraie voiture, c'était une Austin en fait, normale. Et j'ai eu un accident très vite avec, en sortant d'un créneau devant ma maison de disques. Et... il y a une voiture qui est arrivée, qui m'a pas vu, puis bim. Donc la carrosserie était morte, j'ai emmené chez un garagiste, il m'a dit la carrosserie est morte, le moteur est impeccable. Donc il a mis le moteur dans une autre voiture, qui est celle-ci, qui est un break en bois de 1968 et j'ai toujours gardé. Puis ensuite j'ai celle-ci,
qui est une petite Triomphe
rouge. Petite Triomphe Spitfire.
Mais vous sortez avec ?
Oui, ça m'arrive, ouais. Des fois j'ai fait des longues routes avec et récemment je ne fais que des tours de pâté de maison.
Je vois qu'il y a des disques d'or, des disques de diamants par dizaines.
Avant, on me donnait des disques d'or, je les gardais mais je les mettais cachés. Il y avait un côté qui me faisait un peu peur de vivre dans le passé, quoi. Et puis un jour, comme j'ai fait conscience ce studio, alors je me suis dit je vais quand même les mettre. Alors je les mets.
Je vois la pointe des Poulains, Belle Île en Mer.
Ah mais oui, bah dis donc, bravo. Ouais, c'est la pointe des Poulains.
Alors on entre.
Là j'avais fait une pièce pour jouer au ping-pong. Je trouvais que c'était extrêmement agréable de jouer au ping-pong quand on enregistrait et puis de faire des pauses. Et puis là pour l'instant c'est un grenier avec des batteries, des guitares qui traînent, des tas de choses. Enfin voilà.
Laurent Voulzy, il a la réputation d'être lent en studio. Ouais, très minutieux. Hein.
Ouais, c'est un euphémisme. Hein. Il n'a sorti que 9 albums en 42 ans. Depuis le disque Avril, toutes ses chansons sont nées dans cet endroit sombre et cosy. C'est là qu'il a confectionné Histoire naturelle pour Nolwenn Leroy. Là aussi qu'il s'est enfermé avec Alain Souchon pour façonner leur album de duo. On voit l'affiche d'un concert événement pour les 100 ans du Grand Prix de Manille, soirée qu'il avait partagée avec Roger Waters. Il ne touche guère à la console grise immense. L'ambiance est tamisée, tapis rouge au sol et petite lampe, visite guidée.
Je mets tellement de temps enregistré que quand je rentre ici, j'ai du mal à en sortir, quoi.
Justement, quand vous rentrez dans cette pièce, quel est le sentiment qui vous envahit ?
Il peut y avoir, au début de l'enregistrement ou pendant les enregistrements, des moments très agréables, exaltants, avec une joie dans le cœur. Et puis alors, quand on arrive à la fin de l'album et que la maison de disques commence à dire « il ne reste plus qu'une semaine, sinon le disque ne sortira pas », parce que voilà, là c'est vraiment une boule au ventre.
Tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil d'un.
Mais en même temps, j'aime bien, c'est un endroit calme, isolé. Je rentre dans ce cockpit, quoi. C'est un monde à part. Je trouve que la création de la chanson, pour moi, elle continue encore dans le studio. Et parfois, en enregistrant, moi je sais que je modifie des chansons à cause du son qu'on a trouvé, à cause de cette pièce ici, et où tout est possible encore, quoi. D'utiliser à la fois des percussions, des vraies percussions, et parfois même des percussions virtuelles, avec des sons créés, etc. Je parle de percussions comme je pourrais parler de clavier ou d'autres sons encore. Il y a quelque chose de magique ici, quoi. On peut tout faire, tout est transformable ici. Un laboratoire d'alchimie, je trouve, vraiment. L'Athanor des alchimistes. Je viens vraiment ici, quand on enregistre, j'ai une autre pièce au-dessus où je travaille tout seul. Quand je fais mes maquettes, je suis pas ici. Je suis mieux dans une pièce, dans un endroit un tout petit peu plus petit, tout seul. Mais en même temps, cette pièce ici, pour moi, c'est la finalisation souvent. J'aime beaucoup être ici aussi.
Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur les sentiments.
Je travaille d'une façon très artisanale, donc je suis comme un artisan dans son atelier. Moi, ça me permet d'aller au bout de mes fantasmes, quoi. J'ai pas de limite de temps, sauf quand j'ai promis que j'aurais fini à telle date, que généralement je repousse de quelques mois. Mais en gros, j'ai quand même le temps de travailler tout le temps ici, sans pression, quoi.
Et puis il y a donc une pièce derrière. Je vous suis, Laurent ?
Oui, 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 d'accord. C'est la pièce où il y a voilà, une double porte, comme ça on ferme, on est isolé de la personne qui enregistre derrière. J'enregistre mes guitares ici, électriques, acoustiques, des percussions, on a enregistré des quatuors à cordes ici. Et c'est dans cette pièce que je chante, je suis jamais content de ce que je joue, donc je recommence 50 fois mes parties de guitare, je recommence mes voix, je recommence Unison Love, il me semble que c'est bien un an et demi d'enregistrement. Ouais.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire, vous êtes si loin.
Avril, c'était 3 ans. Les ingénieurs de son, il a fallu qu'ils s'arrêtent par moment, il a fallu qu'ils changent par moment. Et j'en pouvais plus. Comme je suis jamais content, au bout d'un moment, c'est exaspérant pour les gens avec qui je travaille. Des chansons entières, comme par exemple sur l'album Avril, une chanson qui s'appelait Marie Quante. Marie Quante, j'ai enregistré 2 ou 3 fois, en tout cas 2 fois sur complète. Au bout de 6 mois, je me suis aperçu que finalement, il y a un passage où je m'ennuyais, quoi. Finalement, j'ai refait entièrement la chanson. Je ne sais pas d'où ça vient, je cherche des chœurs, par exemple, et je m'aperçois qu'il y a peut-être une autre idée. Alors, tel refrain, je vais faire des chœurs, puis l'autre refrain, j'essaie une autre ligne de chœur pour choisir. Mais des fois, dans mes chansons, les chœurs sont différents d'un refrain à l'autre parce qu'en fait, j'ai jamais su choisir lesquels. Ici, je trouve qu'on cherche tout le temps. Et à un moment, on trouve.
Oh yeah, oh yeah, c'est mon histoire que je chante.
Marie Quante, extrait de l'album Avril. Elle a eu donc plusieurs versions. Ouais, cette chanson.
Superbe album, super.
On la retrouve dans Florilège, le nouveau best-of de Laurent Voulzy. Il y a des instruments partout. Laurent Voulzy possède un nombre fou de guitares.
Oui, j'ai une 50aine de guitares. Celle-là, Par exemple, j'ai jamais joué dessus avec sur un disque. C'est le patron de ma maison de disques à l'époque de BMG, un anglais, qui savait que j'étais fan des Beach Boys. Il a trouvé cette guitare vendue aux enchères et dédicacée par les Beach Boys. Alors, donc j'ai cette guitare-là. Vous voyez, elle est là. Je la mets pour le plaisir de la voir, mais en fait, je m'en sers pas. Puis ça, c'est Rickenbacker. C'est une marque de guitare que j'adore. Ça, c'est une guitare qu'on m'a offerte à La Réunion. C'est un luthier qui me l'a offert. Guitare acoustique nylon. Là où il y a une harpe, pas mal d'instruments que j'ai ramené de voyage. Sitar, enfin, tempura, des ukulélés, des choses. J'adore ça. J'ai beaucoup de respect pour les instruments de musique.
Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur les sentiments, pour que dans ses fatigues, ses sommeils.
Et Laurent Voulzy évoquait une dernière pièce de création plus solitaire, Steven.
Oui, elle est située au dernier étage de la maison. Il faut donc emprunter l'escalier à colimaçon. Laurent Voulzy nous y emmène.
Bon, vous ne regardez pas le chantier. Hein.
Non, promis. Je vois quand même album RTL de l'année 2006, la 7e vague. Vous avez gardé le trophée.
Bien sûr. RTL a compté beaucoup dans ma vie quand même.
C'est vrai, hein.
Quand je suis tout seul, je travaille ici. Donc la Marne, je vois la Marne couler pendant que je travaille. C'est extrêmement agréable. Je fais mes voix tout seul et tout. Voilà. C'est ma petite pièce de travail, j'adore être ici. C'est plus une pièce d'écriture. Je fais mes petites maquettes ici tout seul. Mais je suis pas très très fort dans les ordinateurs. J'arrive à lire mes emails, à en envoyer et à travailler sur un logiciel de musique, quoi.
Il y a des chansons qui sont véritablement nées en studio.
Béni en mer, oui. On enregistrait les nuits sans qu'il moelle et c'est vraiment un soir où j'ai pris ma guitare, j'ai mise en bandoulière et j'ai traversé la pièce pour aller dans mon salon. J'ai gratté la guitare en marchant et j'ai trouvé le refrain en marchant de Belle-Île en mer que j'ai enregistré sur un mini-cassette. Donc cette chanson est née en studio. Ouais.
Belle-Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent.
Laurent Voulzy a peaufiné Florilège dans cette pièce, créé l'inédit Lorelai Lorelai et glissé quelques chansons de jeunesse introuvables. Dernière question, qu'est-ce qui a changé dans son rapport à la création entre ses premières et ses dernières compositions ?
Les chansons de jeunesse, je connaissais pas encore Alain. Ça, c'est quelque chose qui a été quand même un grand changement dans ma vie, de travailler avec Alain Souchon. Sur le fond, en dehors de ça, qui est une chose très importante, pas tellement. La même envie de faire le mieux possible, peut-être plus de challenge qu'avant. Le même plaisir de composer, la même obstination, peut-être encore un peu plus qu'avant. Je me satisfais moins de ce que je fais aujourd'hui qu'au tout début.
De Laurent Voulzy s'appelle Florilège, elle est disponible.
On a vraiment envie d'y aller dans cette maison, on a envie d'aller visiter. Hein, Steven,
vous avez l'adresse, voilà. Peut-être qu'il vous ouvrira, Laurent.
C'est ton jamais.
Tellement sympa.
Merci beaucoup, Steven Bellery.
C'est vrai qu'elle était sympa, cette visite. Guidé avec Laurent Voulzy. Merci messieurs, à demain pour le Laissez-vous tenter de l'été. Ce sera 8h40 et puis pour vous Jérôme Florin, à l'antenne dès 6h30. Il est 18h56.
Laurent Marsic, les 100 ans de la radio sur RTL.
Et oui, nouvel épisode de notre saga sur le centenaire de la radio. On est le 19 août et c'est un jour anniversaire qui marque le début des combats de la libération de Paris. Occasion de parler de la guerre à la radio, la guerre au sol et la guerre sur les ondes, Laurent.
1er septembre 1939, l'Europe plonge dans des années sombres. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle.
Au Luxembourg, la toute jeune RTL, qui émet désormais 16 heures par jour, doit cesser ses programmes. À 15h45, le 1er septembre 1939, un communiqué élu à l'antenne dans les trois langues du grand poste européen, en anglais, français et allemand, annonçant donc la fin des émissions. La radio, qui est désormais développée dans tous les pays, va très vite devenir un outil de propagande, mais aussi une arme. Il y a quelques années, un des speakers français du rendez-vous « Les Français parlent aux Français » témoignait sur RTL. Il s'appelait Frank Bauer. Il était le père du chanteur Axel Bauer.
Je suis arrivé à Londres en ayant traversé une partie de la France.
Pour lui, tout a débuté par un appel, le 18 juin 1940, appel du général de Gaulle qui est à Londres et lance sur la BBC.
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Pour Frank Bauer, comme pour d'autres, c'était une évidence, il fallait fuir coûte que coûte les nazis.
Ici, Londres, il fallait arrêter
Les Français parlent en français.
L'appel de De Gaulle marquera aussi la naissance de Radio Londres, une série d'émissions en français hébergées par les antennes de la BBC.
Pour nous, c'était l'aventure d'une vie.
La Royal Air Force appelle le maquis.
Belges, Français et d'autres vont ainsi lancer des radios de résistance en utilisant les antennes européennes de la radio anglaise.
Ici Radio Belgique, ici Londres, les Français.
Ils sont une trentaine sous la direction de Michel Saint-Denis, alias Jacques Duchesne. Il y a des journalistes, des chansonniers comme Pierre Dac dès 1943 et des speakers pour lire les messages des Français parlant au français.
La villa est silencieuse.
Des messages diffusés chaque soir vers 21h30, au départ destinés à rassurer les familles de ceux qui sont en exil. Mais en mai 1941, un agent français parachuté en zone occupée suggère qu'on utilise cette émission pour faire passer des messages à la résistance. Frank Bauer, qui a prononcé 517 fois la phrase « Ici Londres, les Français parlent au français », se souvenait.
Le chien du jardinier pleure.
Je savais que les messages que j'envoyais avaient une destination. On n'avait pas le droit même de le savoir.
La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons, la cruche n'ira plus à l'eau.
Les Allemands tenteront d'interdire l'écoute de Radio Londres en brouillant sa fréquence, en confisquant les postes. Car en France, la radio officielle des Allemands, c'est Radio Paris.
L'État avait pour vous, De Gaulle, un cœur de paix.
Pendant 4 ans, les deux postes vont se faire la guerre. Quand Radio Paris attaque, Radio Londres répond.
Hitler démine-toi, bien vite.
Juin 1944, on se souvient de ces mots.
Les sanglots longs des violons de l'automne.
Le coup d'envoi du débarquement. Message en deux temps, 1er et 5 juin. Pour l'anecdote, ce débarquement avait été annoncé 3 jours avant aux États-Unis sur les radios, suite à une erreur. Une opératrice de la très sérieuse agence de presse américaine AP était en train de s'entraîner à écrire des dépêches lorsqu'elle envoya sur les téléscripteurs ce message. Ce jour, 3 juin 1944, le quartier général d'Eisenhower annonce le débarquement allié en France. L'information sera évidemment aussitôt démentie, heureusement sans conséquence, car 3 jours plus tard, le vrai débarquement avait lieu. Frank Bauer, le dernier Français de l'équipe de Radio Londres, a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Il nous a quittés le 6 avril 2018.
Les 100 ans de la radio, une grande série signée Laurent Mercic. Merci beaucoup. On marque une très courte pause et ce sera les infos.
RTL Soir.
RTL. Il est 19h01.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Avec Alexandre de Saint-Aignan qui nous rejoint pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et à la une, ces bracelets pour remplacer le pass sanitaire au restaurant.
L'expérimentation a débuté aujourd'hui en Gironde. Objectif, éviter la multiplication des contrôles pour les clients complètement vaccinés. L'hôpital de Bayonne au bord de la rupture face à la 4e vague de l'épidémie. Près de Saint-Tropez, le désarroi des habitants face aux dégâts de l'incendie. Le ras-le-bol des Marseillais face à la multiplication des règlements de compte. Comment la France choisit les évacués de Kaboul. Et puis les écolos dans la course à la présidentielle. Première séance d'échauffement aujourd'hui à Poitiers, aux journées d'été des écologistes.
RTL Soir.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a prévenu cet après-midi les restaurateurs qui ne joueront pas le jeu du pass sanitaire n'auront droit à aucune aide de l'État. En Gironde, pour tenter de faciliter les contrôles dans les restaurants et dans les bars, des bracelets sont distribués aux clients vaccinés, volontaires, pour ne pas avoir à les scanner systématiquement. Philippe de Maria, vous êtes sur place pour RTL. À quoi ressemblent ces bracelets ?
Alors, c'est un ruban blanc aux couleurs de l'UMI 33 avec une bague auto-bloquante, c'est-à-dire que quand il est serré autour du poignet, impossible de l'enlever. Hugo est le patron d'El Nacional au Chartron à Bordeaux, il le propose à ses clients.
Vous allez pouvoir passer avec le bracelet sans être obligé de vous faire contrôler à chaque fois ou de porter le téléphone, j'ai oublié, je ne l'ai pas, voilà. Donc, ça ne remplace pas les passes sanitaires, ça il faut le dire. S'il y a un contrôle de police, il faut pouvoir montrer les passes sanitaires. Droite ou gauche ?
Christelle est une cliente fidèle, elle travaille juste à côté et vient déjeuner au moins une fois par semaine avec ses collègues.
On vient fréquemment et à chaque fois on montre le pass sanitaire alors qu'on l'a montré la veille ou le jour d'avant. Donc non, c'est une très bonne idée. J'aurais préféré rose, mais non, ça me dérange pas.
Le syndicat a négocié avec la préfecture pour valider ce bracelet pass sanitaire. Laurent Tournier est président de l'UMI 33.
c'est une démarche qui est sur la base du volontariat. On ne force personne et ça nous permet à la fois de fluidifier cet accès et de permettre aux clients d'être un peu plus tranquilles et de ne pas se faire contrôler plusieurs fois dans la même journée.
Et ce bracelet blanc sera valable dans 200 établissements du département de la Gironde.
Philippe Demaria pour RTL. La situation sanitaire toujours catastrophique dans les Antilles. Des nouveaux renforts de soignants doivent partir sur place demain. Des patients vont également être évacués vers la métropole dans les prochains jours. Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique totalement saturés par l'épidémie de Covid-19.
Mais il n'y a pas qu'aux Antilles que la situation devient de plus en plus critique.
À Bayonne, dans le Pays Basque, le centre hospitalier est submergé face à la quatrième vague en plein pic de la saison touristique. Virginie Garin.
Oui, les 20 lits de réanimation ne suffisent plus pour accueillir à la fois les malades du Covid et les autres malades accidentés, touristes. Donc, 6 patients ont dû être transférés dans d'autres hôpitaux de la région. Franck Caléja est aide-soignant. Il est délégué CFDT de l'hôpital. Il voit arriver une population très différente des autres vagues.
La grande différence, c'est autant sur les autres vagues, on avait quand même des patients qui étaient soit âgés, soit avec des pathologies. Là, on a affaire à des jeunes en bonne santé. Par exemple, des femmes enceintes, donc des jeunes femmes enceintes, des personnes entre 30 et 40 ans.
Et pratiquement tous ces jeunes patients n'étaient pas vaccinés.
90% ce sont des non-vaccinés. D'où l'importance, il faut le répéter, de se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, même si on peut avoir des doutes, c'est ça qui aujourd'hui nous protège, chacun d'entre nous, de ne pas terminer en réa, soit d'y mourir, soit d'en sortir avec des séquelles neurologiques et pulmonaires, peut-être à vie.
Et Franck Caléja va dès ce week-end renforcer le service de réanimation. Quelques lits peuvent être encore créés, mais l'hôpital a besoin de personnel.
Virginie Garin pour RTL.
Et pourtant, le ministre de l'Éducation souhaite une rentrée scolaire la plus normale possible.
Jean-Michel Blanquer a rappelé aujourd'hui qu'il n'était pas question d'imposer le pass sanitaire à l'école. Les classes seront ouvertes le plus possible, avec des fermetures au cas par cas. Dans le même temps, une trentaine de médecins et d'enseignants signent une tribune dans Le Monde pour réclamer des mesures plus strictes afin de limiter les contaminations dans les écoles, alors que le variant Delta est particulièrement contagieux chez les jeunes. Pas de quoi faire changer d'avis le ministre de l'Éducation nationale.
Écoutez, je commence à être habitué à ce genre de tribune. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les sujets, bien sûr, mais le fait d'indiquer les scénarios permet d'être avec les collectivités locales pour se préparer à ce qu'elles ont à faire. Mais là, on est sur des sujets sur lesquels elles sont maintenant très habituées. Il n'y a pas de choses qui ne seraient pas attendues. Oui, bien sûr que nous sommes prêts. Je pense qu'avant la rentrée, c'est important qu'on ait un maximum d'unité nationale sur ces sujets. Encore une fois, l'année dernière a quand même démontré que finalement les décisions prises étaient peut-être pas si mauvaises que ça. Et donc pour cette rentrée, soyons un peuple uni pour que nos enfants aillent à l'école. Et bien sûr, chacun peut contribuer à ce qu'au quotidien, les gestes barrières, les différents dispositifs se déploient.
Des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL.
Et puis ce soir, le ciel du Var est toujours déchiré par des colonnes de fumée noire.
3 jours après le début de l'incendie, la situation est encore très instable à cause du vent. Le feu n'est pas totalement maîtrisé. Il y a encore eu plusieurs reprises de feu aujourd'hui dans la région du Luc. Plus de 7000 hectares au total sont partis en fumée dans le massif des Maures. Certains habitants ont finalement pu rentrer chez eux cet après-midi pour constater les dégâts, Raphaël Vantard.
Jaja est revenu il y a quelques heures voir effectivement ce qui restait de sa maison, de son jardin des de son ancienne pépinière. Et le constat est terrible. L'ancienne exploitation est entièrement noircie de cendres, les serres ravagées, les véhicules calcinés. Et sa maison n'est ce soir plus qu'un amas de gravats.
Ah mais je suis allée au fond, il n'y a plus rien. Tout brûlé. On ne reconnaît rien. De toute façon, on ne reconnaît rien. J'arrive même plus à me repérer. Et regardez, là, je rentrais, la cuisine, la salle à manger, et voilà, la terrasse.
On voit que ça fume encore.
Ah bah oui, même partout. Hein.
Mais le plus important pour cette retraitée, c'est évidemment d'être en vie. Ses lèvres tremblent encore lorsqu'elle se souvient de son départ précipité il y a 48 heures.
Je suis rentrée en peut-être 3 minutes, le temps que je mette des baskets, le temps de prendre mon sac. Je suis partie, j'ai même pas pris la voiture parce que je voyais plus rien. Et regardez, on comprend rien.
Fort heureusement, la maison du fils de Jaja, tout près de là, a été miraculeusement épargnée par les flammes. La retraitée soupire alors. Si on a plus qu'on aime, dit-elle, il faut apprécier ce qu'il nous reste.
Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL.
Allez, courte pause. Dans un instant, direction Marseille. Règlement de compte, guerre des gangs. En tout cas, un garçon de 14 ans a été tué hier soir.
RTL Soir. Disponible. Vincent Parisot, RTL Soir.
Depuis le début de l'été, Alexandre de Saint-Aignan, on a enregistré pas moins de 11 règlements de compte mortels dans les Bouches-du-Rhône.
Le dernier a eu lieu hier soir et la victime est particulièrement jeune, 14 ans. Deux autres mineurs de 14 et 8 ans ont été blessés dans la fusillade. Ça s'est passé dans la cité des Marronniers. Claude a 70 ans, il habite le quartier depuis 40 ans désormais. Il a vu la situation se dégrader et les dealers s'installer avec de plus en plus d'impunité.
En moto, ils étaient avec la Kalachnikov, puis ils ont tiré deux fois environ 4 ou 5 coups. On en a trop marre. Et c'est la guerre entre Fonds Vert qui vient ici, qui tire Kalachnikov sur les dealers de chez nous, et puis, ou comme hier, on ne sait pas pourquoi ils ont tiré sur des gamins de 14 ans. Ça fait une dizaine d'années qu'on se bat contre ça, puis il n'y a rien qui avance, qui évolue. Au contraire, c'est de pire en pire. Ils prennent tous les gamins de 15 à 18 ans pour faire le trafic, et puis on leur dit rien. La police vient. Il y a 15 jours, 15 camionnettes de police sont venues, calmes pendant une demi-heure. Aussitôt partis, c'était recommencé. On téléphone à police secours, ils nous répondent « Oh, mais il y a 135 points de deal, on ne peut rien faire. » Hier au soir, c'est combien ? C'est au moins la 10e fois dans Marseille cette année. On ne s'occupe pas de nous. Voilà, c'est tout. Comme les dealers ont marqué sur le mur là-bas au fond, vous voyez ? L'État nous laisse tomber. Et vous vous rendez compte, c'est les dealers qui écrivent ça. On pourrait en pleurer, vu les gamins qui sont morts hier. Enfin, un qui est mort et puis les deux autres qui sont blessés.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Un stage de naturopathie qui s'est très mal terminé en Indre-et-Loire. Une parisienne de 44 ans est morte. Elle participait à un jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'elle avait arrêté de se nourrir pour ne boire que de l'eau. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire.
Et puis à l'étranger, les États-Unis affirment avoir fait sortir environ 7000 personnes d'Afghanistan.
Ça représente environ 1500 personnes par jour. La France, elle aussi, poursuit les évacuations depuis Kaboul à son rythme. Un troisième avion doit atterrir à Paris dans la soirée. Ça va continuer, Brice Dugénie, car les candidats à l'exil sont très nombreux.
Oui, parce qu'il y a trois catégories de personnes à évacuer. Les Français, bien sûr, les Afghans qui ont aidé les armées françaises. Et la troisième catégorie, ce sont des avocats, des militants des droits de l'homme, des artistes, des journalistes, des personnes qui ont travaillé dans des domaines différents avec l'ambassade de France, des Afghans qui partagent les valeurs de la France et sont potentiellement menacés. Alors, ils se signalent auprès des autorités françaises, mais ils sont des centaines, peut-être même plus. Certains tentent d'atteindre l'aéroport, d'autres se rendent devant l'ambassade de France en espérant qu'on leur ouvre les portes. Et puis, il y a ceux qui attendent chez eux dans l'espoir d'un coup de fil de la France pour partir. La situation reste très instable dans la capitale afghane. Trouver une solution pour tout le monde pourrait prendre plusieurs semaines. Enfin, dernier élément, les rotations d'évacuation sont tributaires de la sécurisation de l'aéroport de Kaboul par les militaires américains. Le jour où les États-Unis décideront de quitter les lieux, eh bien les évacuations ne seront plus possibles.
Brice Dugénie du service étranger de RTL.
Allez, la politique pour terminer avec le rendez-vous de l'été des écologistes, c'est à Poitiers.
La famille politique qui se rassemble avant la primaire de septembre. 5 candidats sont présents et chacun tente de convaincre qu'ils représentent la meilleure chance de rentrer à l'Élysée, Marie Mollet.
Oui, à la tribune, dans les apéros, les pique-niques, partout résonnent les discours triomphalistes.
Nous avons la chance historique de gagner l'élection présidentielle.
Le temps est venu pour nous de conquérir le pouvoir.
Cette campagne va nous mener à l'Élysée en 2022.
Qu'il est loin le temps où les Verts priaient pour faire 5% des voix à la présidentielle. Quant aux journées d'été, les chefs du parti épluchaient eux-mêmes les pommes de terre. L'élu Marine Tondelier se souvient.
On se relayait tous et tout le monde était à la main à la patte, y compris la direction de Poche d'Hiver qui servait à la buvette. Les présidentielles, l'approche de la présidentielle, c'était toujours une appréhension. Il faut se dire que là, sur le site, on est trois fois plus nombreux qu'on a pu l'être dans le passé, et pas il y a 15 ans, hein, il y a 4, 5, 6 ans. Là, on part pour gagner.
Mais l'allégresse n'a pas encore gagné tous les militants. Pour Gilles et Michel, l'heure des écolos viendra, mais pas cette fois-ci.
Je pense que le deuxième tour, malheureusement, ça va être un tour droite-extrême droite. C'est pas gagnable.
Les idées écologistes progressent, mais elles n'ont pas atteint un niveau suffisant pour gagner l'élection maintenant.
Et disent-ils, il faudra aussi s'attaquer à l'abstention. Au régional, les Verts n'ont pas été épargnés.
Marie Mollet pour RTL.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. Claire Delorme, on parle du ciel. Alors là, on va faire dans le classique avec une France coupée en deux.
Exactement, la moitié nord sous les nuages et puis la moitié sud avec du soleil pour changer. Alors dans le détail, en matinée, on va surtout retrouver beaucoup de soleil vers les Pyrénées, l'Occitanie en général, le Languedoc, l'extrême sud-est. Ça va perdurer toute la journée. Par contre, il va falloir un petit peu patienter pour le reste des régions avec encore beaucoup de nuages en matinée, surtout vers la Bretagne, la Normandie, le Pays de Caux, les Hauts-de-France, France, les Ardennes, où on verra très peu le soleil, quelques bruines localement en matinée. Dans l'après-midi, ça redevient au sec. Et puis, la bonne nouvelle, c'est quand même de belles éclaircies vont tout de même se développer au fil des heures, surtout pour les régions au nord de la Loire. Mais que ce soit de la Bretagne, encore vers les Hauts-de-France, hein, pour eux, bah non, pas de chance hein, pour demain. Pour les températures, il faudra compter entre 13 et 16 degrés en général, entre 17 et 23 degrés en matinée, donc près de la Méditerranée. Et donc l'après-midi, il fera entre 21 et 24 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés ailleurs et encore des points de plus de 30 degrés, que ce soit à Nîmes, à Marseille, enfin en général vers la Côte d'Azur, le Golfe du Lion et puis les Pyrénées-Orientales.
Merci beaucoup Claire. Je vous retrouve demain. Vous serez là aussi demain.
Je serai là encore demain, oui.
Voilà, rendez-vous à 18h. Passez une très belle soirée sur RTL. Dans un instant, vous passez l'été en musique avec Eric Jean-Jean.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.